Remue-ménage. Remue-ménage, c'est Ondes Femmes sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Bonjour, bonjour, bienvenue sur Remue-ménage, Radio Zone, Ondes Femmes 93.8. En ce mercredi, il est 17h et c'est l'heure de vous parler en direct de notre studio jusqu'à 18h30. Aujourd'hui, eh bien, on est le 28 novembre, juste encore le temps de recevoir nos amis de l'Inédit, parce qu'autrement, le mois se serait écoulé sans qu'on les ait vus, c'est pas possible. Bonjour Evelyne, bonjour Annette.
Bonjour Catherine.
Alors, on se retrouve aujourd'hui pour évoquer divers écrivaines qui ont parlé de pays de l'Est, ou divers écrivains, parce qu'il y a souvent des mélanges d'hommes et de femmes. Alors Annette, peut-être que tu peux nous annoncer le titre du livre dont tu vas parler tout à l'heure.
Son titre, c'est donc 57 boulevard Staline, chronique albanaise. Il s'agit d'un document rédigé par un jeune couple français, Elisabeth et Jean-Paul Chansex, édité à La Découverte.
Alors nous découvrirons quelle est la situation de l'Albanie aujourd'hui par l'intermédiaire de ce livre. Evelyne, de quel livre vas-tu nous parler ?
J'aimerais parler de Raïssa Gorbatchev, l'inconnu du Kremlin, comme il est en sous-titre. Un livre écrit par une journaliste allemande qui s'appelle Urda Jürgens. Et puis j'ai un autre livre aussi qui s'appelle Paroles dégelées, écrit par Irina Wisniewska, une Polonaise d'origine, et qui s'entretient dans ce livre avec 22 Lituaniens qui évidemment parlent de la situation des pays baltes et tout particulièrement de la Lituanie.
Alors, l'Albanie, l'URSS et la Lituanie, au programme tout à l'heure, en compagnie de nos amis de la librairie de l'Inédit, Annette et Evelyne. Et Morane pour commencer, pour se mettre dans l'ambiance.
Toutes les mamas ont des boubous de toutes les Don't you know how hard it is trying to live on alone? Every day I keep trying to move forward, but something is driving me back. But it's something trying to hold on to me. You forget me, Lord. Well, I don't think I'm any very special kind of person down here. I know better, but I don't think you're gonna find anybody, not anybody, who can say that they tried like I tried. The worst you can say all about me is that I've never satisfied. Useless down here. I can't find me anybody to love me, and I've looked around. I've looked everywhere. Every day I keep pushing, keep trying to move forward, but something is driving me over, and something trying to hold on to me. You can use me, baby. I can help you, Santa. Whoa, whoa.
57 boulevard Staline, chroniques albanaises. Annette, c'est toi qui vas nous présenter ce livre ce soir. C'est un gros livre que tu as dans la main.
C'est
plein d'histoires, j'imagine.
Alors, il y a effectivement plein d'histoires. À la fois l'histoire des deux auteurs qui nous racontent, donc sous la forme de chroniques, leur installation à Tirana et les années qu'ils ont vécues dans la capitale, et aussi en même temps une série de chapitres destinés à nous éclairer sur l'histoire de l'Albanie, son évolution et l'état de la population hier et aujourd'hui.
Alors ces auteurs, c'est un couple de coopérants français, donc ce n'est pas du tout des Albanais qui nous parlent de leur pays.
Non, ce n'est pas du tout des Albanais. Il s'agit donc d'un jeune couple de lettreux français, si je peux m'exprimer ainsi. Un couple qui décide de partir, envoyé par l'ambassade française à Tirana. Il faut peut-être d'emblée dire qu'il y a une tradition de relations culturelles entre l'Albanie et la France qui est extrêmement ancienne. Et notamment, Jean-Paul Chansex nous donne un petit aperçu en nous disant que Charles d'Anjou a été roi de Sicile et roi d'Albanie au XIIIe siècle. Donc il y a déjà bien longtemps qu'en fait le français est reçu chez les Albanais comme presque une deuxième langue nationale.
Mais dans l'Albanie d'aujourd'hui, avec tout ce que cela représente d'isolement de ce pays depuis de nombreuses années, vu le système communiste adopté, les Français ont toujours pu aller et venir dans
Alors,
ce pays-là.
Effectivement, l'ambassade française a toujours été bien reçue en Albanie et c'est un des endroits les plus cosmopolites, si on veut, de la capitale. Par exemple, c'est la seule ambassade qui offre chaque mois un ciné-club au gratin de la capitale. Et c'est, paraît-il, assez rare. Les autres ambassades installées à Tirana n'offrent pas ce genre de distraction culturelle. D'ailleurs, le fameux Hoxha, qui est donc l'ancien dirigeant, défunt maintenant, il y a 6 ans qu'il est mort, mais on sent bien dans le livre qu'il est encore très présent dans les mémoires, est un dirigeant qui a été instruit en France, qui a passé de nombreuses années dans des lycées français et qui parlait couramment la langue française.
Alors, j'imagine que les auteurs de ton bouquin ne se sont pas contentés de rester dans les salons de l'ambassade de France et qu'ils ont effectivement cherché à connaître et à s'intégrer dans la population albanaise. Alors, comment ça s'est passé? Ce ne doit pas être si simple que ça.
Alors, bien sûr que c'était au départ leur envie, c'était s'intégrer le plus possible, notamment aux autres professeurs, puisqu'ils travaillaient dans la pédagogie, dans la formation des jeunes universitaires. Et ils ont dû rapidement déchanter au début, parce qu'effectivement, les contacts avec les autres enseignants, même universitaires, donc théoriquement avec une certaine liberté dans l'organisation des programmes et de la formation, s'est révélé très, très difficile pour eux. Je peux vous lire un petit passage qui donne quelques indications. Une fois, de retour de vacances, nous avons aperçu le directeur du département de français non loin du parc. Juché sur sa bicyclette, à l'arrêt le long du trottoir, il discutait avec un ami. Nous sommes allés vers lui. Lorsqu'il nous reconnut, sans prendre le temps de saluer son interlocuteur, il s'enfuit en pédalant à toutes jambes. Le lendemain, il s'excusa de notre rencontre de la veille, un peu brève. La peur d'être vu avec un étranger était si grande que même le commissaire politique de l'université, qui faisait frémir les étudiants quand ils passaient dans les couloirs, ne répondait pas à notre salut dans la rue. En maintes occasions, nous avons proposé à des collègues de venir chez nous. il trouvait toujours un prétexte pour décliner l'offre. Une réunion, la grand-mère malade, les enfants qui font leurs dents, un cousin de province qui arrive. Lassé de ces faux prétextes, nous avons protesté ouvertement. Et il nous fut répondu que cela posait quelques petits problèmes, parce que nous habitions dans un immeuble pour étrangers. Nous avons compris que l'interdiction était absolue. Par surcroît, les enseignants avaient peur des micros installés dans nos appartements et craignaient de se voir reprocher par la police des paroles coupables. Nous avons alors sollicité un logement dans un immeuble albanais, mais notre demande resta sans effet. En retour, les enseignants ne devaient, sous aucun prétexte, nous révéler leur adresse, car nous aurions pu avoir l'idée saugrenue de leur rendre visite. En 6 ans, nous n'avons jamais été invités chez l'un d'entre eux. Alors bien sûr, cela paraît assez désespérant, et je pense qu'il faut saluer justement l'acharnement, si on veut, de ces deux coopérants français qui, malgré cette fermeture, malgré ces difficultés énormes d'entrer en contact avec les Albanais vivant vraiment normalement dans la capitale, sont restés dans leur travail et ont tenu à essayer de pousser l'enseignement de la littérature française aux étudiants de Tirana.
Mais justement, aujourd'hui, l'Albanie est un pays qui reste un des derniers bastions de la domination, de l'absence de liberté, aussi bien politique que d'expression, etc. Même si, peut-être on en parlera à la fin du livre, les choses changent quand même un petit peu. Alors, comment ils ont réussi à savoir, finalement, les gens, ils ont regardé les gens vivre, est-ce qu'ici leur a permis d'écrire ces chroniques? Qu'est-ce que tu as appris sur la vie quotidienne des Albanais en lisant ce bouquin? Est-ce que tu as pu découvrir un pays?
Alors, je pense qu'effectivement, j'ai appris énormément de choses sur la situation et surtout sur l'atmosphère qui règne dans le pays. Alors, ils ont fait plusieurs choses. D'une part, ils sont restés 6 ans. Et si on fait l'expérience de vivre 6 ans dans un pays, malgré tout, des contacts se créent, même avec les difficultés policières qui sont, hélas, inhérentes à ce système. De surcroît, ils sont enseignants, donc ils parlent avec leurs étudiants. Et fatalement, simplement en expliquant, il le donne plusieurs exemples, en expliquant quelques mots de vocabulaire, eh bien on arrive à comprendre comment les gens vivent. Il y a par exemple tout le vocabulaire de la religion était interdit. On ne pouvait même pas utiliser par exemple le mot de Noël. Et ils ont dû se battre auprès des dirigeants de l'université en disant que s'ils voulaient expliquer quelque chose sur la langue française, ils étaient obligés de se référer à l'histoire de la chrétienté et que le mot Noël fait partie à la limite de la littérature francophone. Mmh. Et ce genre d'éléments a peu passé dans le discours et ils ont pu, dans ce sens-là, atteindre des contacts avec des étudiants. Et je crois que ça a été une des possibilités. La troisième possibilité de contact, c'est qu'ils ont appris l'albanais.
Ah oui, en 6 ans.
Oui, alors ils ont eu besoin de ça. Et c'était n'est-ce pas obligatoire, étonnamment. Hein, on peut très bien aller travailler dans ces pays sans savoir un mot de leur langue. Bon, alors ils ont consacré du temps à apprendre l'albanais. Et ils ont aussi beaucoup voyagé.
Alors, parce que l'Albanie est un pays très divers, non? Je crois qu'avec des montagnes, des campagnes.
Effectivement, il y a la côte sur la mer ionienne. Il y a des montagnes où il fait extrêmement froid très très vite, où l'hiver est très rude. Il y a des villages complètement perdus. Et il y a très souvent dans ce livre des allusions au fait que l'Albanie est parfois considérée comme une petite Suisse. Et je pense que c'est dû aussi à sa géographie, si on veut, au physique des montagnes. Mm-hmm. Bon, on n'a pas une Riviera sur la mer, mais en fait, on a la Riviera du Léman. C'en est déjà une. Et aussi la diversité des clans. Et dans ce sens-là, il y a en Albanie, en fait, une identité de village qui est très, très forte. Et qui est dans l'histoire extrêmement importante. La vendetta, ce n'est pas seulement sicilien, mais en Albanie, c'est encore beaucoup plus fort et beaucoup plus opérationnel, si je puis dire, encore aujourd'hui.
Dans le sens que le système permet, malgré tout, l'éclosion d'un tel système de règlement de compte.
Le système n'a pas pu étouffer cette façon de vivre. dans le sens, et justement parce que dans la capitale, dans les grandes villes, la police est toute présente et ça se passe tout à fait différemment qu'à la campagne. Mais dans les villages reculés, c'est assez difficile de changer la mentalité des gens. Ce n'est pas utile de toute façon parce qu'ils vivent d'une manière encore extrêmement simple, misérable d'ailleurs, en se basant uniquement sur l'agriculture et l'élevage. Ils ont d'ailleurs même des dialectes entre eux qui ne sont pas toujours compréhensibles pour les différentes parties du pays. Certains villages ont une langue qui est plus qu'un dialecte et qui n'est pas compris des gens d'autres villages. La langue albanaise, il semble-t-il, n'est pas encore tout à fait fixée sur le plan grammatical. Il n'y a pas un dictionnaire et une académie qui a fixé définitivement certains aspects de la langue. Et dans ce sens-là, il y a tout un travail encore à faire.
Est-ce que tu as la sensation, en lisant ce livre, de découvrir un pays très différent que ce qu'on a petit à petit découvert de la vie des autres pays communistes au moment où on a pu petit à petit y entrer? Est-ce que tu découvres une situation totalement différente de la vie dans un système
ainsi? Oui, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement particulier, la situation de l'Albanie. Et c'est sûr que une des raisons pour lesquelles j'avais envie de lire ce livre dès que je l'ai vu arriver à la librairie, c'est que l'Albanie est un pays que j'ai toujours trouvé assez fascinant. C'est un peu facile de dire ça aussi, je suis bien d'accord. Mais on a l'impression que c'est encore un îlot privilégié où les gens peuvent vivre au rythme du temps, prennent le temps de se voir, de se rencontrer, de se saluer, de profiter des contacts et sans être comme nous stressés, entre autres.
Qu'est-ce qui t'avait fait avoir cette image de l'Albanie? C'est drôle, j'ai pas du tout cette image-là.
Ah oui.
Pour moi, c'était le pays très fermé, où même de la côte, on ne pouvait rien apercevoir. Et où on se demandait bien ce qui s'y passait. Les seules images qu'on pouvait avoir, c'est celles qu'on trouvait dans les livres d'Ismaël Kadare, dont on pourra peut-être parler tout à l'heure. Mm-hmm. Mais c'est un peu comme ça que je me suis créé mon image de l'Albanie. Et puis Radio Tirana, que certains d'entre nous écoutaient de temps à autre.
J'ai lu des articles de journalistes qui rentraient de là-bas et qui racontaient d'une manière assez positive leur contact avec le pays. Je ne veux pas dire avec les gens, mais avec le pays. Mais probablement qu'ils ont survolé rapidement, qu'ils ont passé une semaine et qu'ils ont pu voir tranquillement une ou deux choses. C'est vrai que j'ai aussi lu les livres d'Ismaël Kadare et que là, en fait, je me disais, j'aimerais bien savoir comment ça se passe vraiment. Et je me suis rendu compte, effectivement, en lisant ce livre, que la situation de détérioration, disons, des relations sociales dans le pays était bien plus grave que tout ce que je m'étais imaginé. Ça, c'est sûr, c'est assez triste de constater cela. Et d'un autre côté, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre, c'est que les deux auteurs essayent d'être le plus proche possible de leurs étudiants, de leurs collègues malgré tout. Et ils ont beaucoup d'espoir pour l'Albanie. Et à travers le livre, on sent qu'ils arrivent à nous faire communiquer avec toute la possibilité du développement des jeunes là-bas, tout en nous donnant vraiment une image extrêmement précise et d'une réalité difficile.
Par exemple, je crois que les auteurs de ce livre évoquent la situation des femmes et des étudiantes en particulier.
Oui, exactement.
Alors peut-être si tu peux nous en parler un petit peu, parce que c'est vrai que les étudiants, c'est un monde albanais qu'on ne connaît pas du tout, donc ce serait intéressant de savoir un petit peu plus concrètement
de
quoi il s'agit.
Une des premières choses que je savais vaguement, mais effectivement, on sait beaucoup de choses très vagues en fait sur l'Albanie. Et au point de vue religieux, actuellement, donc le gouvernement communiste a décidé que toute religion était bannie du pays. Or, en fait, la religion musulmane a été pendant des siècles la religion que la majorité des gens exerçaient, pratiquaient. Même si on a décidé arbitrairement que c'était terminé, bien sûr que tout un aspect des relations sont demeurés et que d'ailleurs, actuellement, avec une certaine libéralisation, certains rites, certaines coutumes reprennent corps dans les villages. Et il semble qu'effectivement, là, il y a tout un champ d'investigation et de recherche de la population qui va se développer de toute façon. Mais bon, pour expliquer la situation de la femme, je pense que ce n'est pas inutile de préciser qu'effectivement, la majorité des Albanais étaient musulmans il y a 50 ans en arrière.
C'est de la musique albanaise que vous écoutez dans Remue Ménage, Radio Zone 93.8. Musique albanaise pour évoquer le livre 57 Boulevard Staline, chronique albanaise, qui nous est présenté par Annette de la librairie L'Inédite à Genève.